Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Academy à l'Institut de France pour, au fil des pages, découvrir un concept nouveau de l'économie et de la finance durable. C'est en effet sous ce titre que vient de paraître un ouvrage collectif à la revue Banque, 190 pages, 25 euros, sous la direction conjointe de Pascal Grandin et de professeur d'affaires Saïdan. Monsieur Saïdan, bonjour. Vous représentez votre co-directeur avec un sous-titre qui marque une ambition, une nouvelle finance pour le 21e siècle. Alors, vous avez réuni une palette d'auteurs assez remarquable qui va de Michel Aglietta, qui est un auteur et un professeur émérite, qui passe aussi par Georges Pauget, qui cumule la qualité d'ancien patron du CAC 40 avec celle de grand talent d'économiste et d'auteur, puisque vous avez été, Georges Pauget, le lauréat du 13 janvier prix Turgot du meilleur livre d'économie financière pour son édition de 2009. Donc bonjour Georges Pauget.
Bonjour.
Vous avez donc apporté votre propre contribution à cet ouvrage collectif. Alors, nous allons revenir dans quelques instants sur votre réflexion, la réflexion générale avec vous, mais la réflexion aussi particulière que vous avez apportée par votre contribution sur la banque durable de demain. Et je vais pourtant avant présenter un peu plus complètement les deux co-directeurs. Alors, le premier est Pascal Grandin, professeur agrégé des universités en sciences de gestion et actuellement directeur de la faculté de finance, banque, comptabilité, université de Lille 2, et DGA Faculté, et recherche de SECMA Business School. C'est un auteur qui a publié plusieurs ouvrages de référence dans le domaine de la gestion de portefeuille, ainsi que des articles dans des revues académiques. Quant à vous, monsieur le professeur d'affaires Saïdan, vous êtes maître de conférence à l'université de Lille 3. Vous êtes habilité à diriger des recherches et actuellement professeur à SECMA Business School, expert auprès des Nations Unies et la Commission économique pour l'Afrique. Vous enseignez à l'École des mines de Douai, à l'ESC de Tunis et dans différentes autres universités. Vous dirigez notamment la licence professionnelle assurance banque finance en formation continue à l'Université de Lille 1 et vous avez publié de nombreux articles et des ouvrages sur les problèmes bancaires et financiers. Voilà. Alors, voilà, les présentations sont faites. Nous en venons donc maintenant à votre parution. Avec une première question que j'ai envie de vous poser et qui tient, je dirais, au contexte de crise répétitive que nous connaissons depuis le XXIe siècle. Donc on peut dire en toute humilité qu'une des grandes leçons, c'est que non pas que rien n'est durable peut-être, mais qu'en tout cas, rien n'est jamais acquis. Alors c'est peut-être un peu paradoxal de parler de durabilité en matière de finance, qui a été la première particulièrement vulnérable. Donc la première question, c'est... Qu'est-ce que c'est que cette finance durable et quelles en sont les principales caractéristiques en quelque sorte? Donc je me tourne vers vous, donc, monsieur le professeur d'affaires Saïdan.
Merci monsieur Chambon. Alors effectivement, c'est la question que nous avons posée aux 17 experts qui sont réunis dans cet ouvrage. 17 experts avec des profils différents, vous l'avez évoqué, d'éminents universitaires, mais aussi des professionnels de la banque avec une longue expérience. Et nous avons tout simplement soumis cette question. Qu'entendez-vous? Quelle serait, selon vous, cette finance durable, cette finance qui pourrait peut-être nous aider à amortir les chocs de cette finance conventionnelle qu'on subit en ce début du XXIe siècle? Et donc nous avons eu un certain nombre de réponses avec des sensibilités différentes, mais avec des apports très riches, puisque justement ces apports s'appuient sur des regards différents. Et donc ces regards croisés ont permis de fonder voilà, ce début de concept, hein, notre démarche est très très humble et modeste, qui serait donc ce concept de finance durable. J'insiste simplement sur le fait que ce qui a animé notre démarche, notre méthodologie, c'est son côté scientifique. Hein. Nous sommes sur une approche scientifique de cette finance durable.
D'accord, donc ce n'est pas simplement une approche journalistique.
Absolument.
D'accord. Voilà. J'ai oublié de préciser, mais je pense que c'est important, on doit la préface à Christian de Boissieu, qui notamment développe cette question de qu'est-ce que la finance durable. Alors, quels sont donc les grands principes de cette finance durable? Vous les développez assez largement dans l'introduction, mais vous pouvez peut-être les rappeler.
Tout à fait. Alors, justement, ce que nous avons fait, nous n'avons pas du tout influencé la réflexion ni la pensée donc des 17 experts qui ont bien voulu se prêter à ce jeu. Donc, nous avons posé la question, qu'est-ce que la finance durable? Et avec mon collègue Pascal Grandin, nous avons tout simplement essayé de voir la cohérence d'ensemble. Et de ces différentes contributions, se sont dégagés, j'allais dire tout naturellement, quatre principes. Quatre principes qui définissent au fond un peu le périmètre de cette finance durable, qui est encore un périmètre mouvant. C'est quelque chose qui est en construction. D'abord, parmi les premiers principes, c'est que c'est une nouvelle approche qui fait appel à de nouveaux comportements. Nouveaux comportements, y compris moins d'excès, moins de démesure dans la finance. Deuxième principe, c'est une croissance qui se veut financer des projets durables. C'est une finance qui s'inscrit dans le green business, comme on dit, hein, qui s'inscrit dans le développement durable. Troisième principe, c'est une finance qui se veut proche des individus, c'est une finance qui se veut plus tangible, plus opérationnelle, qui offre plus de sens à ce que nous consommons en termes de produits financiers, par exemple. Et puis pour finir, et je pense que ce quatrième principe me paraît fondamental, c'est que c'est une finance qui est non exclusive, elle n'est pas prosélyte, elle ne cherche pas à se débarrasser de la finance conventionnelle. Au contraire, on cherche à partir de cette base, donc il ne s'agit pas de faire la révolution, il s'agit de partir de la finance conventionnelle, mieux la comprendre, mieux comprendre ses difficultés, ses enjeux, et essayer d'apporter les réponses qui sont les plus adaptées.
Alors donc, c'est plutôt enrichir la finance classique que de se substituer à elle. Mais alors, je voudrais, avant qu'on en vienne peut-être à la contribution de Georges Pauget, revenir sur la contribution de Michel Aguiglietta, qui lui, et c'est une de ses thèses bien connues, propose de renforcer le rôle de l'État dans cette approche de la finance durable. Alors, il n'est pas là pour en parler, mais vous avez bien sûr conduit cet ouvrage. Quelle est votre position sur ce sujet? Est-ce que l'État, dans sa grandeur, est susceptible effectivement de favoriser ce nouveau concept de finance durable?
Bien, alors je ne peux pas me substituer à Michel Aguiglietta. Ce que je peux dire, c'est que le rôle de l'État est fondamental dans cette architecture de cette finance durable. Les pouvoirs publics, justement, souffrent d'un problème, je pense, très important, c'est qu'il y a une perte de terrain. On le sent très bien, le marché avance, les mécanismes du marché occupent une place de plus en plus importante. La puissance publique a besoin de retrouver une certaine crédibilité aussi, à susciter et à créer une certaine confiance. Et je pense que ce concept de finance durable participe à cette, disons, à une forme de crédibilisation, en quelque sorte, de la puissance publique et essayer de retrouver, que l'État puisse trouver, en quelque sorte, sa place. Alors, est-ce que ça passe par plus de réglementation? Personnellement, j'ai des doutes. Je ne pense pas qu'on puisse réglementer encore davantage un système qui est déjà surréglementé. Je pense que ça passe par, comme le dirait peut-être Michel Aguiglietta, bon, placer le curseur au bon endroit, hein, entre plus d'intervention et plus libéralisme.
Alors, peut-être, on reviendra sur l'ensemble de cette présentation, mais on va peut-être se tourner maintenant vers Georges Pauget, qui a traité, avec vous d'ailleurs, hein, donc de la définition de la banque universelle durable. Alors, on sait que les banques sont placées sous le feu de l'actualité, ça fait quelques années que ça dure. Quelle est donc cette banque universelle durable que vous décrivez dans votre contribution? Quels sont les points les plus sensibles?
Le point de départ de notre réflexion, c'est que dans un univers qui est très complexe, l'univers de la finance internationale, qui est très instable, il y a certes nécessité d'une réglementation, mais on mesure bien ses limites. La difficulté de coordonner les réglementations à l'échelle mondiale, la difficulté de les appliquer même si on prend la zone européenne de façon homogène, à l'évidence ce ne sera jamais uniforme, cela veut donc dire que pour avoir une finance durable, il faut des acteurs de la finance qui soient organisés et qui aient un comportement qui assure cette durabilité, cette soutenabilité. Et donc, ce que nous avons cherché, ça n'est pas à définir la banque idéale, mais c'est au contraire une banque très réaliste, qui à la fois s'appuie sur un modèle économique solide, qui n'est pas exclusivement dominé par la performance à court terme, mais qui commence à intégrer, je dis commence parce que c'est une démarche progressive, qui commence à intégrer des visions de moyen terme, qui intègre donc des critères, des paramètres de moyen terme. Et puis, dans cet ensemble, il y a une place extrêmement importante qui est faite dans notre modèle, d'une part à l'analyse et au suivi des risques, mais dans les banques, puisque ce sont elles qui finalement gèrent une large part ou contribuent pour une large part, pas exclusivement à la stabilité du système. Et puis, la gouvernance des banques, au-delà de la gestion des risques, est un élément clé. Et de ce point de vue, on a vu des contributions récentes en France, au Royaume-Uni, un petit peu partout, qui permettent, quand on les agrège, quand on les synthétise, de voir qu'il est possible de définir une banque universelle qui intègre mieux les problématiques de stabilité et les problématiques de longue période. Ceci dit, ne rêvons pas, il y a toute une part de la finance, et notamment de la finance de marché, qui est hors de la réglementation, ce que l'on appelle le shadow banking system, qui est à aujourd'hui encore, et même après la crise de 2007-2009, hors toute réglementation, et qui représente un poids financier plus important que la finance réglementée, c'est-à-dire que la banque. Et donc, l'équilibre entre ces deux mondes, si je puis m'exprimer ainsi, est aussi un problème clé. Et notre conviction, c'est que si on développe ce modèle de banque, et puis une surveillance de la part des régulateurs, puisque aujourd'hui, à mon avis, une des erreurs commises dans le discours public, c'est que tout passe par la réglementation. Alors, il faut de la réglementation, à l'évidence, mais il faut aussi de la surveillance, c'est-à-dire donner des moyens aux superviseurs, en France à l'autorité de contrôle prudentiel, de telle sorte qu'ils aient la connaissance la plus fine, la plus rapprochée des mécanismes financiers, parce que ceux-ci évoluent en permanence et on est à peu près sûr que la réglementation a toujours un train de retard. Et donc, pour éviter qu'un décalage trop important ne se produise, il faut donner aux superviseurs les moyens de surveiller le fonctionnement du système et d'en connaître tous les détails, toutes les arcanes.
Alors, avant de passer la parole à Monsieur Saïdan, je voudrais signaler que votre plume est particulièrement intéressante, un style très très alerte, et je voudrais vous lire à la page 110, qui synthétise assez bien ce que vous avez développé. Notons tout d'abord que la banque durable n'est pas la banque idéale. La banque durable est une réponse qui s'impose face à la crise financière. Elle traduit le besoin de sécurité et de stabilité des acteurs économiques, mais aussi de certains financiers. Elle fait référence aux fondamentaux de la firme bancaire, dont l'intermédiation repose sur la satisfaction de ses clients, une rentabilité qui la situe bien dans le marché, on l'oublie souvent, une performance à moyen et long terme qui assure sa pérennité et une contribution à la stabilité du système financier. Je crois que c'est le ton général de votre contribution. Alors, pour rebondir sur ce que disait Georges Pauget, et rappeler quelle est la dimension du périmètre de cette shadow banking. On ne sait pas très bien combien, mais entre 7 et 10 fois le PIB américain. Donc une masse non réglementée qui est absolument considérable. Quel est le regard que vous portez? Alors je ne sais pas si vous le traitez complètement dans cet article, mais en tout cas, on fait le lien avec l'actualité sur les dispositions qui semblent sortir des dernières réunions, des derniers sommets, qui disent toujours être le dernier sommet européen, etc. Est-ce que dans ce que vous avez entendu ou ce que l'on peut entendre, il y a des réponses qui vont dans le sens de cet objectif de banque durable? Enfin, je pose la question à tous les deux, bien entendu.
Il y a tout d'abord une réponse claire en matière de coordination et de contrôle des politiques budgétaires. Donc l'accord des 8 et 9 décembre répond, à mon avis, de façon très claire sur le sujet. Et si on prend ce qui avait été décidé précédemment, on voit aussi quelles peuvent être les sanctions dans l'hypothèse d'une défaillance de tel ou tel État. Le problème n'est pas tellement de sanctionner que de contraindre pour avoir un changement. En revanche, les mécanismes de lutte contre la contagion, c'est-à-dire d'éviter que, quand il y a de l'incertitude sur le marché et donc des craintes à les positions vendeuses soient dominantes et que cela entraîne une baisse et donc à nouveau des difficultés. Donc les moyens mis en œuvre pour éviter cette contagion sont à aujourd'hui insuffisants et les procédures sont inadaptées. Et
Il est extrêmement difficile à 17 pays de se mettre d'accord sur des mécanismes. Il est extrêmement difficile d'expliquer aux peuples des différents pays qu'il faut mettre une masse financière considérable en commun pour lutter contre ce phénomène. Et ça, chacun peut le comprendre. Mais il est de fait que le résultat tel qu'il a été obtenu jusqu'ici n'est vraisemblablement pas de nature à régler totalement le problème. Et donc ma crainte personnelle est que nous restions encore pendant quelques mois dans une situation de forte instabilité, vraisemblablement très difficile à maîtriser, et que ceci nous coûte assez cher en termes de croissance économique.
Oui, c'est ça, effectivement. La grande menace est sur la croissance économique. Surtout, on a l'impression qu'à un moment donné, on est passé très près de la perte totale de contrôle de ce phénomène qui touche l'ensemble des pays occidentaux. Parce qu'on parle beaucoup de l'Europe, mais il n'y a pas que l'Europe. La Grande-Bretagne notamment, et puis les USA sont dans le même paquebot. Alors, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Oui, alors, simplement pour aller dans
le sens... Monsieur Saïdan,
Oui, pour aller dans le sens de Georges Pauget, effectivement, les mécanismes macro que nous sommes en train d'essayer de mettre en place paraissent effectivement utiles, indispensables. Mmh. Mais je pense que les mécanismes microéconomiques en eux-mêmes, qui permettent en quelque sorte de rendre le comportement de l'intermédiation financière plus... disons, plus durable, plus utile à l'économie réelle, ces mécanismes et ces mesures, à mon avis, sont pour l'instant pas tout à fait celles qui seraient souhaitables d'envisager. Je veux dire par là que les problèmes subsistent, les problèmes qu'on pourrait résumer dans ce qu'on pourrait appeler le cocktail explosif, c'est les problèmes d'aléa moral. C'est la certitude que les banques se refinancent à tous les coups, c'est la complexité des produits financiers, c'est les problèmes de conflits d'intérêts, donc les problèmes de déficit de gouvernance, c'est aussi le problème du court-termisme que Georges Pauget évoquait. C'est également la question du sens, de ce que nous consommons, de ce que nous produisons. Je pense que tous ces problèmes qui peuvent être résumés dans un mot qui est la démesure, finalement, cette démesure est sans doute préjudiciable au fonctionnement aujourd'hui de l'intermédiation bancaire. L'intérêt, évidemment, serait de revenir au cœur de métier, réduire la voilure. À mon avis, c'est ce vers quoi on s'engage aujourd'hui. Mais le chemin qui reste à parcourir est encore assez long.
Oui, avec un grand malentendu, enfin en tout cas de mon point de vue, c'est que les prétendues dérives des banques européennes qui ont financé les États européens, c'est un sujet qui peut être discuté. On ne sait pas qui a plus dérivé. Est-ce que c'est les États qui se sont endettés ou les banquiers qui ont prêté à des États qui étaient réputés être classés 3A ? Bon, c'est un autre sujet. Mais enfin, on voit que dans votre analyse, la banque durable a sa place.
Elle a sa place, elle peut être construite. Alors, ça demandera du temps. C'est difficile de le faire dans le contexte actuel puisque... les banques aujourd'hui ont un coût du capital qui est extrêmement élevé, entre 9 et 10%.
C'est ça.
Et donc, si elles veulent apporter de la valeur ajoutée à leurs actionnaires, il faut qu'elles dégagent des rendements supérieurs à ces 9 ou 10%, ce qui est présentement extrêmement difficile à faire. Et donc, je pense qu'il faut que nous abordions une période de stabilité avant qu'elles puissent redéfinir leur modèle économique et s'orienter vers un modèle plus durable. Aujourd'hui, elles gèrent des problèmes à très court terme, qui sont des problèmes de liquidité, mais leur capacité de manœuvre est extraordinairement limitée.
Et donc justement, la remarque que vous faites sur la rentabilité des capitaux des banques m'amène à vous poser la question. On a vu que les banques avaient donc leur place dans la finance durable. Est-ce que les actionnaires ont leur place ? Aujourd'hui, les actionnaires sont aussi maltraités, semble-t-il, que les banques elles-mêmes. Alors que vous avez déjà donné des éléments de réponse.
Les actionnaires de long terme souffrent de l'extrême instabilité du système.
Tout à fait.
On peut comprendre qu'ils soient découragés quand vous avez sur certaines valeurs financières des écarts à l'intérieur d'une journée de 15 voire 20%
ouais,
comme c'est arrivé ponctuellement. C'est tout simplement incompréhensible pour un investisseur, même beaucoup d'investisseurs professionnels. Et par conséquent, on ne peut pas imaginer que quelqu'un qui gère de l'épargne, que ce soit son épargne ou que ce soit de la gestion pour compte de tiers, s'engage sur des marchés qui ont un tel niveau de volatilité. Donc il est absolument impératif, par des mécanismes divers, de réglementation pour une part, de discipline des États pour une autre part, de coordination des politiques budgétaires des États et enfin de comportement des acteurs du système financier aussi, il est absolument impératif de réduire l'incertitude, c'est-à-dire de donner plus de visibilité. Et à aujourd'hui, il est frappant de constater que sommet après sommet, des progrès sont réalisés, des incertitudes sont réduites, mais que la visibilité n'est pas encore suffisante pour que le système soit stable.
Voilà, c'était donc les convictions et les éléments de réponse sur ce nouveau concept de finance durable pour comprendre et accompagner un changement inéluctable de cette finance. Donc un ouvrage collectif qui est paru à la revue Banque sous le titre de « La finance durable » et un sous-titre « Une nouvelle finance pour le 21e siècle ». 185 pages, 25 euros. Messieurs, merci pour nous avoir éclairés sur ce sujet et à bientôt, j'espère.